Salut, je m'appelle Alexandre de Saint-Aignan et dans ce nouveau podcast de la rédaction de RTL, on va se mettre au défi.
Le dry January.
Deux mots en anglais qui signifient littéralement janvier sec, autrement dit pas d'alcool pendant un mois, c'est le même principe que le mois sans tabac. Un challenge de plus proposé aux Français après les fêtes et pour en parler avec nous dans ce podcast, Laurent Carilla. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Vous êtes addictologue et auteur de « On n'a qu'une vie » aux éditions Fayard. Alors par curiosité, j'ai regardé quand est-ce qu'on a parlé pour la première fois de ce « Dry January » sur l'antenne de RTL. C'est plutôt récent, ça date de janvier 2019 dans le journal de Christelle Rebière.
Les Anglais raffolent de ce qu'ils appellent « Dry January », autrement dit « janvier sans alcool ». C'est une autre façon de manier la détox. Et un Français, Jean-Louis Navarro, a décidé de relever le défi. En tant que bourguignon, il sait ce que ça représente.
À minuit 01 exactement, j'ai arrêté de trinquer et puis j'ai lancé mon défi. Prohiber toute consommation d'alcool de ma part. Je suis ni addictif ni alcoolique notoire. Je suis épicurien et habite en Bourgogne. J'habite dans une région qui est plutôt sympa au niveau gastronomique et puis viticole. Donc il m'arrive de lever le coude avec mes collègues et j'ai trouvé intéressant d'une partie d'alcool pendant un mois. C'est plutôt une régénération du corps, je me sens mieux physiquement, ça me permet d'être moins essoufflé et puis d'être mieux dans ma tête, mieux dans mon corps. Et puis, sans alcool, la fête est plus folle.
Bon alors Laurent Carilla, le problème avec l'alcool c'est que les habitudes sont ancrées profondément. Est-ce que c'est si grave que ça de consommer de l'alcool si on n'en boit pas tous les jours par exemple?
Non, c'est pas grave, mais si vous voulez, il y a des recommandations de base faites par Santé publique France, c'est... Pour éviter d'une consommation excessive, c'est 2 verres par jour, pas tous les jours, avec au moins 2 jours sans consommer. Donc c'est au maximum 10 verres par semaine pour les hommes et les femmes. Mais on sait très bien, la vulnérabilité de chacun peut l'expliquer, mais qu'à partir d'un verre d'alcool, il y a des risques déjà. Donc on n'est pas dans un zéro risque quand on boit de l'alcool. Mais c'est vrai que si on est dans les normes Santé publique France, pas plus de 10 verres par semaine... Avec 2 jours off, on n'est pas dans le risque a priori.
Arrêter de consommer de l'alcool comme ça pendant un mois, ça a un impact sur le corps?
Ça fait du bien. Ça fait du bien au corps entier, ça fait du bien au cerveau, ça fait du bien au foie, ça fait du bien.
Déjà à court
peau.
Terme ou il faut attendre un petit peu plus longtemps?
Non, c'est sur le mois. Il y a des effets bénéfiques sur le mois, c'est-à-dire que on va avoir un meilleur sommeil, on va être moins anxieux. On va être moins stressé, on va être un peu plus attentionné, un peu plus concentré. Il y aura un effet bénéfique sur la peau, sur le bien-être et on va être apaisé globalement.
Scientifiquement, qu'est-ce qui rend l'alcool aussi addictif?
L'alcool, c'est une substance psychoactive, c'est une drogue, l'alcool. Donc, ça va agir sur des régions dans le cerveau qui sont des régions habituellement faites pour les récompenses naturelles, comme manger, quand on a faim, boire, quand on a soif, pas d'alcool, faire l'amour, être amoureux, aimer passionnément une musique. Ces circuits-là répondent à ces récompenses et l'alcool, tout doucement, va dérégler tous ces circuits dans le cerveau.
Oui, il y a aussi des bonnes addictions. La consommation d'alcool en France, c'est une tradition, notamment au moment de l'apéritif, comme l'avait constaté l'an dernier Vincent Serrano.
Oui, accoudé au zinc où aujourd'hui on se contente simplement de commander.
Un pot de 25 de grammes.
En dessous des tireuses d'alcool fort. Et quand on se retourne, on va sortir pour aller voir la terrasse, et bien pas louper. Sur les 6 tables, à chaque fois, il y a au moins un verre d'alcool.
Votre prénom, monsieur?
Thibaut.
Alors qu'est-ce qu'on boit?
Tire-pêche, PDG. Dans ma famille, on buvait, ouais. Il y avait l'apéro, le machin, et comme beaucoup de gens, j'imagine, ouais.
Vos habitudes, c'est quoi?
Mes habitudes, elles ont beaucoup changé. Sinon, moi, c'est un apéro, vous voyez, et puis 2 verres de vin par repas.
Et vous êtes au-dessus des recommandations
C'est largement. On est là pour vivre.
Thibaut, vous seriez capable d'arrêter comme ça du jour au lendemain?
J'ai aucun problème avec l'alcool.
Monsieur, je vois que ça vous fait rire. Ouais, le mois sans alcool, vous?
Moi, je bois pas.
Vous plaisantez, je vous ai vu avec une bière à l'intérieur.
C'est pas de l'alcool, la bière, c'est de l'eau et du boulot.
Une dernière question, Thibaut, est-ce que l'alcool, c'est aussi dangereux que le tabac, que la drogue dure?
On en pense que non.
Le prénom, monsieur?
Fabien. Non, mais je pense qu'en France, surtout, c'est culturel, la consommation d'alcool. Le bon vin, c'est pas cher en plus, donc ça incite beaucoup à la consommation. C'est triste, mais c'est comme ça.
Votre prénom?
Amira.
Amira, vous le dry January, on teste.
Oui, j'ai commencé parce que je bois trop d'excès et que juste après les fêtes, un mois sans alcool, je me suis dit que ça pouvait être sympa, être moins fatiguée.
Vous, Gauthier, vous passez le pas, c'est le mois sans alcool, on teste
parce qu'on en avait besoin.
Une bouteille de vin, quelques bières.
Par jour ?
Ouais. On arrive le matin, on nous paye un verre, on boit un verre, on trinque, on fait la fête. Tu calcules même plus ce que tu bois, quoi.
Bon, ça va, vous faites partie des 31% de Français qui savent qu'ils consomment trop d'alcool par semaine.
C'est énorme. Non, je sais à peu près combien ça coûte. Ça. Je suis entre 10 et 15 euros par jour.
Gauthier qui fait donc partie de ces 10% de Français qui tentent le Dry January. Il faut rappeler qu'en France, chaque année, 49 000 personnes décèdent à cause de leur consommation d'alcool.
Bon, alors, il y a plein de problématiques différentes qui sont évoquées dans ce reportage, Laurent Carrella. D'abord, j'aimerais qu'on parle du profil de ceux qui sont accros à l'alcool et qui passent peut-être par votre cabinet. Ce sont plutôt des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux ?
Bah, moi, je suis dans un service d'addictologie, hein, l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Donc, j'ai des hommes, j'ai des femmes et j'ai des seniors qui viennent consulter. Il y a aussi des plus jeunes. Et ce qu'on a vu ces dernières années, j'ai une recrudescence de femmes qui ont des problèmes avec l'alcool, donc qui ont une addiction à l'alcool et une maladie. Donc, ouais, c'est ça le profil actuel.
L'addiction, elle passe aussi par les gènes parfois. On n'est pas tous égaux face à l'alcool.
Personne n'est égal face à une addiction plutôt. Et l'alcool, c'est un des objets de l'addiction. Il n'y a pas que les gènes qui entrent en compte. Il y a différents autres facteurs de vulnérabilité, comme déjà notre développement personnel, comment s'est passée notre puberté, comment notre cerveau a maturé, évolué. Ça, c'est le facteur central qui va interagir avec des facteurs psychologiques et psychiatriques. Si on a plus de troubles psychologiques et psychiatriques, ça augmente le risque d'être addict. Ça joue beaucoup avec l'environnement, notre environnement. Bah, l'alcool est disponible, le côté festif de l'alcool, le côté culturel de l'alcool, les habitudes parentales, les habitudes d'éducation. C'est un autre facteur, donc un troisième facteur. Il y a le facteur génétique qui joue un rôle. Dans 40 à 70% des cas, il peut expliquer la maladie. Et il y a aussi notre cerveau en lui-même, comment il s'est développé, comment les circuits se sont interconnectés, etc. Il faut qu'il y ait un déséquilibre de ces cinq facteurs pour rentrer dans la maladie addictive, quel que soit l'objet de l'addiction, dont l'alcool fait partie.
Comment est-ce qu'on fait pour soigner une addiction à l'alcool ? C'est vraiment une bonne idée comme ça de se sevrer un peu brutalement pendant un mois ?
Ah non. Le message très très important là, c'est le défi de janvier ou le Dry January ne doit pas être fait chez les gens qui ont une addiction à l'alcool. Mmh. Le Dry January ou le défi de janvier, il doit être fait chez les gens qui se posent des questions sur leur consommation d'alcool, qui pensent ne pas contrôler leur consommation d'alcool, qui ont envie de changer leur comportement. Les addicts à l'alcool ne font pas le Dry January tout seuls. Les addicts à l'alcool, ils se font aider médicalement.
Et alors comment est-ce qu'on fait pour les aider médicalement ?
Ben, y a des services, il y a des centres de soins, il faut voir un médecin qui va évaluer le diagnostic. S'il y a addiction à l'alcool, il y a un programme de soins qui va se mettre en place où on va traiter, on va sevrer les gens, on va les désintoxiquer avec une aide médicamenteuse et psychothérapeutique. Et après, on va aller sur le maintien d'abstinence en alcool, pareil avec une aide médicamenteuse et psychothérapeutique. Il faut aller aussi fouiller les problèmes, chercher ce qu'il y a dans les racines avec un travail psychologique. Et il y a des groupes de parole qui interviennent. Il y a des patients experts qui peuvent aider aussi dans le traitement.
Pour revenir un petit peu sur le Dry January, j'évoquais tout à l'heure le mois sans tabac. La comparaison, l'État impose de plus en plus de taxes sur les paquets de cigarettes. Est-ce qu'on devrait faire pareil avec l'alcool ? Pour vous, augmenter le prix, ça pourrait faire baisser l'alcoolisme en France ?
Ça pourrait faire, bien évidemment, mais il y a tout un lobby ultra puissant qui joue un rôle important. Bien sûr, il y a un impact épidémiologique du prix des substances, donc bien évidemment que ça pourrait jouer un tout petit peu en tout cas.
Il y a cette petite musique aussi qu'on entend dans le reportage, le vin, la bière, c'est pas de l'alcool, autrement dit c'est pas grave ou c'est moins grave que l'alcool fort, c'est vrai ça ?
Non, c'est une idée reçue. Tous les alcools sont identiques, en fait il y a des concordances en fait. Un ballon de vin, c'est égal à un demi de bière, c'est égal à un baby de whisky, c'est égal à un verre de gin, c'est égal à une coupe de champagne. Chaque verre, c'est 10 grammes d'alcool. Donc il faut dans sa tête se dire, je bois un verre, c'est 10 grammes d'alcool, et à la fin, je fais la somme et je vois combien de grammes d'alcool j'ai bu dans la soirée ou dans la journée.
Vous évoquiez la pression des lobbies il y a quelques instants. On sent que l'alcool, c'est vrai que c'est un sujet sensible pour les autorités. Exemple, en 2019, le ministre de l'Agriculture de l'époque, Didier Guillaume, avait déclaré ceci sur RTL.
Je suis très opposé au mois de janvier sans vin. Je trouve ça aberrant. Mmh. Moi, je préfère la modération toute l'année que l'interdiction et la prohibition un mois de l'année.
Il faut dire que la France compte énormément de vignobles. On est le deuxième producteur de vin au monde derrière l'Italie. C'est une industrie qui fait vivre beaucoup de personnes. Malgré tout, quand on regarde les chiffres de la consommation de vin en France, on s'aperçoit qu'elle est en forte baisse, hein, moins 32% sur ces 10 dernières années. Est-ce que ça veut vraiment dire qu'on consomme moins d'alcool ou alors qu'on se reporte peut-être plus sur des alcools plus forts que le vin ?
Non, il y a un report sur les autres alcools, il y a un report sur... il y a quand même tout le business de la bière, il y a tout le marché des autres alcools forts, il y a le marché des alcopops, hein, les boissons sucrées et alcoolisées pour les jeunes, il y a un vrai marché de tout le reste. Et je voudrais juste rebondir sur ce qu'avait dit le ministre, c'est que le Dry January ou le défi de janvier, ce n'est pas quelque chose de prohibitif ou de diabolisant ou interdire les choses. Les gens s'emparent déjà de ce qu'ils ont envie de faire et il y a aucune injonction à dire aux gens, vous arrêtez de boire en janvier. C'est faites-vous kiffer, essayez de changer de comportement.
Oui, essayez de sensibiliser un petit peu les populations sur les dangers que peuvent représenter aussi l'alcool. Alors pour vous raconter un petit peu mon expérience personnelle, je vais vous parler de moi. J'ai arrêté de consommer de l'alcool depuis maintenant plusieurs années. Alors je ne buvais pas beaucoup, mais j'ai été élevé dans une famille où le vin, c'est presque une religion. Alors aujourd'hui, je me considère toujours un petit peu comme un connaisseur, mais le vin, je le goûte surtout avec mon nez. La chose qui m'a semblé difficile au départ, d'abord, c'est le regard des autres qui avaient du mal à comprendre pourquoi est-ce que j'arrêtais. Et encore aujourd'hui, il y a de l'incompréhension. Et puis quand j'allais boire un verre avec mes amis, souvent il n'y a pas beaucoup de choix. Maintenant, on trouve de plus en plus de boissons sans alcool qui imitent le goût des alcools qu'on connaît. Laurent Carrella, qu'est-ce que vous pensez de ces boissons ? Est-ce que, à votre avis, ça peut aider à se passer de l'alcool ?
On dit dans les conseils dans le défi de janvier, c'est trouvez-vous des boissons de substitution. Et notamment tout ce qui est mocktail. Donc, c'est des cocktails qui ressemblent à. C'est des cocktails sans alcool, en gros. Oui, ça aide, c'est une des recommandations possibles. Après, quand on est adulte, c'est pas très grave. Moi, ce qui me gêne énormément, c'est sensibiliser les très jeunes à des boissons alcoolisées, type mojito, type piña colada, etc., sans alcool, à ces jeunes qui vont tout doucement attendre d'être un peu plus vieux pour goûter à la boisson alcoolisée comme les grands.
Oui, vous voulez dire qu'il ne faut pas donner ces cocktails sans alcool à des jeunes parce que ça risque de leur donner envie ensuite de boire de l'alcool, c'est ça ?
Ouais, ça sensibilise un peu, l'image sensibilise un peu, le côté festif, environnement et le côté modeling, hein, c'est un terme de thérapie, mais modeling, c'est quand je serai grand, je ferai comme lui. Donc le modeling chez certains, c'est quand je serai grand, je fumerai des cigarettes, quand je serai grand, je boirai de l'alcool, etc.
Vous, personnellement, ça vous arrive de consommer de l'alcool ?
Oui, je bois de l'alcool, mais pas beaucoup, honnêtement.
Et vous avez déjà été tenté par faire le Dry January ?
Je fais le défi de janvier.
C'est vrai ? Vous l'aviez fait déjà les années précédentes ?
Je l'ai fait l'année dernière.
Et vous avez senti que ça vous a donné un second souffle ?
Alors, moi, je bois pas beaucoup, mais il y a quand même des effets sur l'impact calorique de l'alcool, ça c'est clair.
Oui, ça aide aussi à perdre un petit peu de poids, c'est ça que vous voulez dire ?
Ouais, complètement.
Merci beaucoup Laurent Carrella, je rappelle que vous êtes addictologue et auteur. Votre dernier ouvrage, On n'a qu'une vie, est paru aux éditions Fayard. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, sur les réseaux sociaux. On lira vos commentaires et vos remarques avec plaisir. Comme toujours, rendez-vous dès demain sur rtl.fr pour un nouveau Focus.